arrêté. En fait, j'avais passé par-dessus un certain moment de sa vie. J'avais fait le début, j'avais fait la fin. Après ça, on a commencé les chroniques. Et en même temps, depuis quelques semaines passées, cette vie de David par laquelle j'avais passé par-dessus, ben en même temps, me revient à l'esprit puis me tourne en tête aussi. Et je me demandais différentes choses au sujet de David et j'ai pas trouvé toutes les réponses. Alors, je vous préviens tout de suite en venant ici ce matin, ce soir, que j'ai réfléchi beaucoup cette semaine, j'ai pensé beaucoup sur ça et il y a des choses qui m'échappent un petit peu dans la vie de David. Et puis, en même temps, on va en discuter ensemble ce soir et ce qu'on va voir est vraiment le texte historique de la vie de David, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit qui est raconté. Et ce qui est difficile avec la vie de David dans cette partie-là, c'est que ce n'est pas la vie de Jésus. Alors, si on voit la vie de Jésus, on sait que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est bien. Si on voit la vie d'un autre homme, puis qu'il n'y a pas d'intervention du haut du ciel qui approuve ou qui désapprouve, ben là, on se trouve à évaluer le comportement de la personne ou les agissements de la personne avec le reste des Écritures. Mais ça demande un peu plus de travail. Et puis, il y a des fois, il y a des choses qui nous échappent. Mais avant qu'on regarde la portion de David que je voudrais que l'on voit, j'avais quelques questions pour vous, juste pour qu'on lance nos réflexions justement sur la période de David dans laquelle on va voir ce soir. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait attendre? Pourquoi est-ce que parfois on se trouve à attendre? On parlait dans les derniers dimanches que c'est moi qui prêchais, on parlait de la prière, des conditions à l'exaucement, et par exemple pour la prière, pourquoi est-ce qu'on se trouve en certaines circonstances à attendre à ce que Dieu réponde à certaines de nos prières? C'est lui qui a le contrôle du temps. Oui, OK. Alors, lui déduit que nous, on en a besoin. Oui. OK. Alors, il connaît les choses de nos vies. Et des fois, on a besoin de temps, nous. Alors, il le connaît. J'avais vu une autre main levée aussi avant Frédéric. Oh. OK. OK. Gisèle, après ça, Frédéric. Oui, vas-y, Fred. OK. 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 Alors, il laisse une période de temps pour nous sonder ou nous évaluer. Un peu comme ce que tu dis, Gisèle. Oui. Oui. Et on pourrait citer différents exemples dans la parole où ce qu'on voit que Dieu a attendu certains événements, sans toujours qu'on comprenne pourquoi. Il y a eu un 400 ans de silence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance avant que Dieu reparle. Au temps de Samuel, ça faisait longtemps que Dieu avait parlé aussi. Les gens en Égypte, donc, ça faisait 400 ans qu'ils étaient en Égypte, qu'ils attendaient le secours de l'Éternel. Alors, pourquoi est-ce que des fois les gens attendent? Pourquoi? Je vous pose deux autres questions. À quoi est-ce qu'on doit faire attention lorsqu'on est en attente? Lorsque Dieu veut nous faire attendre, à quoi est-ce qu'on doit faire attention de notre propre attitude ou personne? Ou action. OK. Ouais, s'attendre à Dieu. Ouais. OK, alors on doit faire attention de ne pas aller au-devant du temps que Dieu avait établi. Oui, René? Oui. Oui. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, de ne pas précipiter, de ne pas utiliser des moyens humains. Oui, Bertin? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça nous rappelle les choses. C'est en son temps, chaque chose que Dieu fait en son temps est parfait. Oui, Lisette, après ça, Madame Richard, j'ai vu les mains dans l'ordre. Ouais. 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 C'est ça. Et de ne pas de pas décrocher de Dieu. Et je vais donner la parole aussi à Mme Mouchard que je continue mon commentaire. Ouais. 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 Gardez la foi. Est-ce que vous vous souvenez, Pierre, il disait, il y a des moqueurs qui sont là puis qui vous disent, où la promesse de Dieu? Où gardez votre Dieu, il vous a oublié. Puis qu'est-ce qu'il répond? Ils veulent ignorer en effet la promesse et que Dieu va accomplir la promesse. Puis pourquoi est-ce que Dieu attend? Parce qu'il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance, que les gens puissent. C'est à cause de sa patience, c'est ça ce que Pierre dit. Et Dieu est au-dessus du temps. Et nous, on doit se souvenir ça aussi. Dieu, des fois, on attend après Dieu, on attend après ce que Dieu va faire dans nos vies, ou on attend que Dieu va agir, que Dieu va répondre à une prière, puis c'est correct que d'attendre. C'est correct que d'attendre, parce que ça. C'est ça, alors, c'est ça. Alors, Dieu est au-dessus du temps. Dieu n'est pas dans le temps, bien que nous, on l'est, mais Dieu est sensible, évidemment, au fait qu'on est dans le temps, mais Dieu veut parfois nous faire attendre aussi. Je perds le nom, le quatrième ami de Job, là, comment il s'appelle à la fin, là, Élie. Eliphaz, quelque chose comme ça? Eliphaz? Le dernier, en tout cas le quatrième mousquetaire là, qu'on n'entend pas parler à la fin, là. Dans Job 35, 13 à 14, je vous le lis, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Ça, c'est comme si il cite ce que Job disait. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Qu'est-ce qu'il dit? Attends-le. Attends-le. Et c'est intéressant de voir que le mot se confier, qu'on voit en hébreu, est traduit dans le Nouveau Testament et est donné plusieurs fois, 152 fois dans l'Ancien Testament, l'expression se confier, qui est les équivalents du Nouveau Testament de foi et croire. Dans l'Ancien Testament, on les a traduits par se réfugier, évidemment se confier premièrement, mais se réfugier, se reposer, s'appuyer sur, et littéralement, attendre, attendre, s'attendre à Dieu, attendre après Dieu, se confier en Dieu, se confier sur la personne de Dieu, c'est s'attendre à Dieu. C'est attendre à ce que Dieu va intervenir dans ma vie, qu'il va agir dans ma vie. Alors, se confier en Dieu, pourquoi est-ce que Dieu veut que l'on attende? C'est parce qu'il veut qu'on s'attende à lui. Il veut qu'on place notre foi en lui, il veut qu'on se confie en lui. Et la confiance, se confier en lui, mais évidemment, c'est relié à la confiance, à cette foi-là que l'on va avoir en lui. Alors, pourquoi est-ce que David a dû attendre si longtemps entre le moment de son onction et son couronnement? Il s'est passé un laps de temps qui était à partir de son onction jusqu'à son couronnement. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait attendre? Je ne m'attends pas à une réponse de vous. Puis, parce qu'on pourrait discuter longtemps sur ça. Mais cette question-là m'emmène à une autre question, c'est est-ce qu'on peut savoir toujours pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que David a attendu? On ne sait pas. On peut voir des choses qui se sont passées peut-être dans l'attente que David a eue, sur lesquelles on peut prendre exemple d'appliquer ou de ne pas appliquer, mais on voit que David a vécu une période de temps où il a dû attendre que Dieu allait accomplir ce qu'il lui avait promis. Et puis en plus, que c'était une période difficile. Où ce que David avait été oint pour devenir roi, mais il y avait un autre roi qui était là, puis en plus, c'est un roi qui en voulait à sa vie. Alors, David, il devait être dans une situation où ce que continuellement, il devait renouveler sa confiance en Dieu. Continuellement, il devait s'attendre à Dieu. Dieu, tu me oins pour que je devienne roi un jour. Et puis, Jonathan le savait. Jonathan lui avait dit, le fils de Saül avait dit, c'est toi le roi, c'est toi qui vas être roi un jour. Puis, il avait fait une alliance ensemble. Mais David devait se souvenir de ça dans cette période d'attente-là, et particulièrement une période qui était remplie d'épreuves, parce qu'il y avait beaucoup d'épreuves. Et peut-être l'attente elle-même était une épreuve aussi, à savoir comment est-ce que ça allait finir. Attendre Dieu, c'est se confier en lui. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière, et après ça, on va tourner dans 1 Samuel, le chapitre 21, et une partie aussi dans le chapitre 22. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses. Et tu sais tout ce que l'on a de besoin, Seigneur, dans nos vies. Tu sais de quoi on a besoin pour continuer de demeurer attaché à toi. Seigneur, on veut s'attendre à toi et on s'attend aussi à ce que ta parole ce soir parle à nos cœurs, parle à nos têtes. Et à travers l'histoire de David, Seigneur, qu'on puisse serrer ta parole dans nos cœurs et la mettre en pratique. Peut-être de plus en plus fidèle. C'est le nom de ton fils qu'on te prie. Amen. OK. Le chapitre 20 était justement David et Jonathan. Vous vous souvenez, David, il dit, ton père, il m'en veut. Et puis là, Jonathan, il dit, ben non, mon père t'en veut pas. Mon père, il fait rien sans me consulter, sans me le dire. Et puis là, David dit, non, ton père, il m'en veut vraiment. Puis il sait qu'on est bons amis. Et puis là, il te le dira pas parce qu'il sait que tu vas probablement me faire enfuir. Alors, ils ont fait ensemble un stratagème là, pour tirer la flèche. Et puis, vous vous souvenez de l'histoire, ça va plus loin, ça va avant. Alors, ça voulait dire telle ou telle chose. Tout ça pour dire que finalement, à travers la discussion que Jonathan a entendue de son père Saül, il a bien compris que Saül était en furie après David et que le plus tôt il pouvait l'avoir, il voulait sa peau à David. Alors, Jonathan est venu rapporter ça à David. Alors, on arrive au chapitre 21, où ce qu'on arrive justement à la fuite de David. J'aimerais ça avoir un volontaire qui va me lire les versets 1 à 7. OK, Lisa. OK. Première section, les 7 premiers versets. David est en fuite. David fuit Saül. Et quand on est en fuite puis qu'on veut sauver sa vie, ben on voyage léger. Et David avait le ventre léger à ce moment-là. Et est-ce qu'il devait passer par la ville de Nog? Est-ce qu'il passait par là? C'était une ville qui était proche de Jérusalem, qui n'était pas où ce qu'il y avait le temple, où ce qui anciennement il y avait eu la temple d'assignation. Et il y avait Nob est une ville de sacrificateurs. Et alors David, est-ce qu'il pensait aller trouver du réconfort? Est-ce qu'il allait trouver un homme qu'il connaissait bien, qui allait pouvoir le rassurer, du moins l'aider, ou est-ce qu'il passait par là? Du moins, il arrive à Nob, et puis le sacrificateur Achimélec, ben, a l'air de bien connaître David, puisqu'il arrive de au-devant de lui, essoufflé et puis énervé, à savoir, qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Et puis, alors là, David, il répond, bon, mais je suis en mission pour le roi, et puis, je suis parti rapidement, et puis, faut que, c'est une mission qui s'est tellement faite rapidement que je suis parti avec rien dans les poches et rien dans le ventre. Et puis, maintenant, ben, qu'est-ce que tu as sous la main? J'aimerais ça manger. Et puis, donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Et puis, le sacrificateur, je fais juste résumer les grandes lignes. Le sacrificateur répond à David, bon, mais j'ai pas des pains ordinaires. C'est des pains de proposition qui sont là, qui devaient être seulement pris par les sacrificateurs, que les gens, le commun des mortels, je peux dire, ne pouvaient pas toucher à ces pains-là. Alors, c'était vraiment une exception où ce que le sacrificateur, il dit, ben là, c'est pas des pains ordinaires, c'est des pains de proposition. Mais il y avait aussi, bon, les pains devaient être renouvelés à tous les sabbats, et les pains étaient pris, ils avaient été enlevés, alors c'était des pains d'une semaine passée, et il y avait des pains tout frais maintenant, tout chauds, qui devaient évidemment pas toucher, mais il y avait des pains qui maintenant étaient retirés, et puis que les sacrificateurs pouvaient manger, qui étaient uniquement pour ces hommes-là. Et là, le sacrificateur, il dit, bon, alors si vous n'avez pas eu de, comment est-ce qu'il dit ça, vous êtes abstenu de femme depuis 3 jours, alors ils pouvaient en prendre. C'était une purification rituelle, je peux dire, pas que c'était mal en soi, mais dans le cas des sacrificateurs, dans le Lévitique, dans l'Exode, c'est ce que l'on voit. Alors, il y avait certains rites de purification et certains d'entre eux étaient associés justement au service du temple, pas qu'il était quelque chose de mal en soi, mais qui était établi par Dieu, qui étaient des rites de purification, je peux dire. Et alors, David, il dit, non, mes hommes sont corrects, et puis on peut manger, et puis, au même endroit, verset 7, là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Il était en train d'accomplir un devoir religieux, de ce qu'on comprend en disant enfermé devant l'Éternel, ou lié à la loi, ou lié à un vœu, mais accomplir un devoir religieux. Il était à Nob. Et il était là, puis il a entendu l'histoire. OK, je vous pose quelques questions. Comment est-ce qu'on doit comprendre la réponse de David à la question du sacrificateur? Verset 2. David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que j'ai été donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Qu'est-ce que l'on doit comprendre de la réponse de David au sacrificateur? Excusez. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi direct tout de suite. C'était un mensonge. Est-ce que vous avez d'autres façons de voir? Juste un petit mensonge. Ouais. Surtout si c'est une affaire secrète, il faut pas en parler. Et puis, c'est ça. Et pourquoi c'est un mensonge? Quelle était la cause de sa venue? Il se sauvait de Saül. Alors, il se sauvait de Saül et il a transformé ça en mission. Est-ce que c'était astucieux? Voilà, en tout cas, c'était ingénieux au mal. Alors, vous dites que c'est un mensonge et évidemment, je suis bien d'accord avec ça puisque ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la raison pour laquelle il allait à Nob. Et il a raconté au sacrificateur que, bon, ben, il devait passer puis il devait rapidement s'en aller. Est-ce que c'était une nécessité? Est-ce que c'était justifiable? Comment? OK. Alors, il voulait sauver sa vie. Si on se place dans ses souliers, on comprend dans un point de vue humain qu'on est attaché à notre vie, on aurait voulu la sauver. David, c'est probablement son intention. Oui, Yves? Ouais. Il a bien fini. Il a bien fini, mais il a eu des détours dans sa vie. Ouais. Ouais. C'était un cœur selon ce que Dieu recherchait. OK. Est-ce que c'était une nécessité? Est-ce que c'était justifiable? C'est certainement pas justifiable. Est-ce que moi, je peux m'avancer à donner le conseil, à savoir qu'est-ce que David aurait dû faire? Ben, je le ferai pas. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre, du moins, de David? C'est qu'il a mal agi. Est-ce que le mensonge est quelque chose de clairement révélé comme un péché dans les Écritures? Oui, un faux témoignage. Et je suis convaincu que David savait cette chose-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que son mensonge faisait mal à quelqu'un? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que son mensonge, au moment qu'il disait, faisait mal à quelqu'un? À Dieu. À Dieu. Pour David, c'était peut-être quelque chose de petit comparativement à ce qu'il voulait sauver, comparativement à la souffrance ou à la douleur ou à l'épreuve qu'il vivait. Il voyait peut-être un petit mensonge qui pouvait le libérer d'une grande souffrance. Et puis, on garde ça de côté parce qu'on va voir tantôt que finalement, ça a fait mal à quelqu'un, ce petit mensonge-là. Il y a peut-être aussi une autre explication pour laquelle David a raconté ce mensonge. Au verset 7, ben, il y avait Doeg qui était là. Doeg, est-ce que c'est un Hébreu, un Israélite? Non. C'est un Édomite. Est-ce qu'un Édomite craint l'Éternel? Non. Ne craint pas l'Éternel. Et est-ce que David a voulu cacher la vérité pour justement pas que cet Édomite-là partent rencontrer Saül, puis dire, hey, il est là, David, et puis on a passé, on l'a vu, et puis j'en ai entendu parler. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais est-ce que c'est une explication possible pour laquelle David aurait dit ça? Ben, peut-être. Mais même si c'était le cas, ça ne serait pas justifiable non plus, et il aurait fallu que David utilise d'autres moyens. Alors, pourquoi est-ce que David a menti? Comment? Pour sauver sa peau? C'est quoi le problème de David à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait dans son cœur face à Dieu? Il faisait pas confiance à Dieu. Il a voulu sauver sa peau. Il a voulu peut-être précipiter les choses ou utiliser des moyens qui lui étaient à sa portée humaine pour faire avancer les choses. Et dans la première chose qu'on voit, du moins de David, c'est que pour ce qui est d'attendre Dieu, mais du moins, il a menti en arrivant à Nob et puis au sacrificateur qui était là. Il a reçu son pain, il a reçu la nourriture qu'il avait besoin, et David, comme je disais, ben, il voyageait léger, alors il a reçu du pain, puis il voulait aussi des armes pour se défendre. Alors, regardez, j'aurais besoin d'un volontaire qui va me lire les versets 8, 9 et 10. Si vous avez des commentaires à rajouter ou des observations qu'on peut si, être illuminé chacun d'entre nous, ajoutez-les. Ça va vraiment être pertinent, parce que je n'ai pas réponse à tout ça. Ouais. Ouais. Oui, René. Ouais. Conséquences immédiates. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il craint pas Dieu vraiment, mais. Ouais. Non. Et Dieu, c'est la grâce de Dieu où ce que le péché abonde, la grâce surabonde, et certainement que Dieu permet que si le péché est là, que Dieu va faire couvrir ou surabonder la grâce à travers cette chose-là. Et j'imagine aussi à travers la confession qu'on va voir plus tard à travers David. Mais bien que Dieu ne révèle pas non plus chaque péché dans l'instant où ce qu'il est fait, Dieu a révélé quand même certaines lignes, à savoir que faux témoignage, c'est un péché. Alors peu importe qui le pratiquera par après, même si Dieu n'intervient pas du haut du ciel pour révéler, tu viens de compter un mensonge, il l'a déjà dit et on doit en être conscient aussi, bien que Dieu ne l'ait pas révélé. Et pour cette chose-là, mais c'était dit depuis Moïse. Mais certainement, je comprends aussi ce que tu veux dire, David, où ce que on peut pas justifier le mensonge, où ce que Dieu en même temps fait surabonder la grâce à travers le péché qui a été là. OK, on va continuer dans le chapitre, toujours au chapitre 21, versets 8 à 10. Volontaire que vous voulez lire ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Mélissa. OK, ça marche. David s'éleva et s'enfuit. OK, David y arrive et là, il y a eu la nourriture qu'il voulait. Puis avant de partir, il demande s'il n'y aurait pas une arme à lui fournir. Mais la seule arme qui se trouvait là, c'était quoi? L'épée de Goliath. Drôle d'Adon, pour dire Adon. Est-ce que vous vous souvenez d'une parole que David avait dit à Goliath? Quand il s'avançait sur le champ de bataille, tu marches devant moi? Avec l'épée, je l'ai écrit ici pour être sûr, avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David, il se retrouve quelque temps après, puis il pogne le sacrificateur par l'éphod, et puis donne-moi une épée, donne-moi une épée. Je veux une arme, je sais pas, là, je mets ça comme ce que moi je le vois là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de David? Est-ce que c'était une volonté? Comment je peux dire, raisonnable que de vouloir une épée? Ouais. Dieu a permis qu'il y ait des guerres qui se passent entre les Israélites et d'autres peuples se gagnent à la pointe de l'épée. Puis il y a d'autres guerres qui se sont gagnées avec le feu qui est tombé du ciel aussi, ou la grêle. Est-ce que la confiance que David avait en Dieu avait diminué? Ouais. 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 OK. OK. Ouais. Dans ma réflexion, je me disais, pour un guerrier, c'est normal que de vouloir une épée. Ça fait partie de l'armure du combattant et puis des soldats et puis d'avoir une épée. Mais en même temps, l'ironie du sort, pour dire ça comme ça, et je ne crois pas que c'est l'ironie du sort, fait en sorte que c'est l'épée de Goliath qui est là. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est l'épée de Goliath. Et c'est la seule qui est à disposition, qui se trouve à cet endroit-là. C'est celle qui avec laquelle il se retrouve. J'imagine qu'elle devait être grande, je ne sais pas si c'était facile à manier. Mais David, en tout cas, il trouvait qu'il n'y en avait pas de pareil. Il n'y en avait pas de pareil et il la voulait. Est-ce que c'est un outil que Dieu voulait utiliser pour ramener la foi de David? C'est ce que je penserais personnellement. J'imagine David, peut-être dans sa fuite, où ce qu'à un moment donné, il s'assoit pour se reposer, puis qu'il voit l'épée de Goliath, puis que ça lui rappelle ces souvenirs-là sur le champ de bataille, où ce qu'il avait eu confiance, ça lui rappelle peut-être ces pensées-là qu'il a dit sur le champ de bataille, et qu'il se souvient, justement, de la confiance qu'il avait, et maintenant, cette confiance-là qui est diminuée, peut-être par la crainte, par la peur, cette confiance-là. Tantôt, on va lire un psaume qui est dans des qui est parallèle à ça, et qui va nous illuminer aussi, mais certainement que je crois que Dieu a utilisé ce moyen-là pour ramener sa confiance. On va continuer de lire dans les versets 10 à 15, pour faire la suite de l'histoire. David continue de s'enfuir, il est passé à Nob, il a rencontré le sacrificateur, il lui a donné du pain, il lui a donné l'épée de Goliath, et là, il continue sa fuite. Où est-ce qu'il s'en va? Versets 10 à 15. Quelqu'un qui voudrait me lire ça? Richard. OK, c'est bon. Verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il n'a pas traîné. Le même jour, il a mangé, il a pris l'épée. Même jour, il part. Puis, il s'en va. Il arrive chez Achish, le roi de Gath. Gath, ça vous dit quelque chose? C'est une ville de Philistins. Et la ville de qui particulièrement? La ville de Goliath. Il part avec l'épée de Goliath dans la ville de Goliath. Chez les Philistins. Alors, quel stratège est-ce que David avait dans la tête? Je ne sais pas. Faire du truc. Il fallait que la fureur de Saül soit grande pour que David en arrive là aussi. Il fallait qu'il ait peur de Saül. Il fallait qu'il veuille sauver sa vie. Et il y a certains éléments là-dedans que j'imagine qui sont compréhensibles. Où est-ce que David va sauver sa vie? Où est-ce que David a besoin de fuir Saül? Et que David vit une période d'épreuve et qu'il a besoin de passer au travers. De quelle façon est-ce qu'il va passer au travers? Quel moyen est-ce qu'il va utiliser? Il se retrouve chez les Philistins, chez ses ennemis, avec l'épée de Goliath, et chez Goliath, autrement dit, dans sa ville, à l'endroit où est-ce qu'il venait. Peut-être que David s'est dit, bon, ben les Philistins, c'est les ennemis de Saül, peut-être que les ennemis, mes ennemis, seront mes amis. Et puis, tout à coup, on entend au verset 11, les serviteurs d'Achish, ils sont venus dire, « Hey, n'est-ce pas là David, roi du pays? » Alors, déjà là, eux, ils le voyaient comme le roi. « N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, « Saül a frappé 5 000 et David, c'est 10 000? » Comment est-ce que David avait entendu ça? Comment ça a été quoi la réaction de David quand il a entendu les serviteurs d'Achish dire ces choses-là? Il a eu peur? Il a pris ces paroles-là à cœur, dans le sens que ça y est rentré au cœur. Puis ça, quel sentiment est-ce qu'il a eu à ce moment-là? La crainte? Je suis faite. Et quelle réputation est-ce qui lui précédait? Quelle réputation est-ce qui précédait David, même jusque chez les Philistins? Un homme, un roi, victorieux. On a entendu sa chanson, on a entendu sa toune qui passe encore. David a frappé ses 10 000, puis Saül ses 1 000. Et alors, sa réputation l'avait précédé. Et quand David a vu que les gens le connaissaient, qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen? La folie. Alors, verset 11, « Il se montra comme fou à leurs yeux. » Il fit devant eux des extravagances, il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Je ne peux pas vous dire avec pleine conviction à savoir est-ce que c'était de la sagesse qu'il utilisait pour se détourner ou est-ce que c'était réellement une humiliation dans un sens, dans son manque de foi, ou est-ce que David a vraiment dégringolé, dans le sens qu'il est rendu au point de faire le fou, de faire couler sa salive sur la barbe, et de faire des extravagances, mais c'était son moyen qu'il avait trouvé pour passer inaperçu, en faisant le fou, en jouant le fou. Et même le roi Achish n'en voulait pas. Il a dit non, ben du moins il a pas été éliminé de par ses ennemis, ses anciens ennemis. Puis le roi a dit non, moi des fous j'en ai déjà plein. Comment? Je veux pas un fou de plus et on le fait sortir d'ici. Alors c'est pour ça que je dis, est-ce que c'était une bonne tactique de David de jouer le fou puis de s'en aller ou c'était une humilité? Ouais. De faire le fou. C'est ça. Mais encore là, je me repose la question à savoir, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que Dieu est en train de conduire dans cette période d'attente-là que David a, est en train de le conduire dans l'apprentissage de différentes choses. Il se retrouve avec l'épée de Goliath. Il se retrouve chez les Philistins, chez Goliath. Il se retrouve là à faire le fou. Et David, je suis sûr qu'il est en train d'apprendre des choses. Bien qu'il a manqué par le mensonge, il a manqué peut-être par de la crainte, parce qu'ici, il y a eu une grande crainte du roi Achish. Il y a eu la crainte des hommes, David. Il a eu peur de Achish. Cette semaine, on lisait à la bergerie, je pense que quelqu'un avait sorti ce que Jésus disait. Il n'y a pas un seul de vos cheveux qui va tomber, sinon, si ce n'est pas de la volonté de Dieu. Alors ça, c'est la confiance que l'on peut avoir, que peut me faire un homme si Dieu est avec moi. Mais David avait oublié ça. David, il avait peur de Saül. David, il avait peur de Achish. Il avait peur des hommes. Il avait peur pour sa peau. Mais je suis convaincu que Dieu est en train de le conduire dans un passage où ce que David va réaliser différentes choses. Et je crois que c'est le cas, puisqu'on voit des psaumes aussi qui sont écrits par après, où ce que David, il fait l'état de ce qui s'est passé. OK. On va lire la conclusion de cette petite histoire-là dans le chapitre 22. David a menti. Il a dit, je suis en mission pour le roi Saül, donne-moi à manger, donne-moi une arme. Il se retrouve chez ses ennemis, chez les Philistins, à faire le fou, chez Goliath. Et finalement, même le roi n'en veut pas. Il est retourné, il revient. Alors là, on va passer la partie par-dessus la caverne d'Adoulam. Et on voit qu'est-ce qui se passe par après, à la suite, où ce que Saül arrive, est toujours à la recherche de David. Il est où David? Il fait ses enquêtes et là, il arrive auprès de différents serviteurs, puis il dit, pourquoi est-ce que vous me trahissez? Pourquoi est-ce que vous cherchez à cacher David? Et puis, lui qui m'en veut à moi, verset 13, il dit, il me dresse des embûches. Et là, finalement, il y a un homme au verset 9 qu'on va lire et après ça, on va passer au verset 16. Alors, allons tout au verset 9. Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Alors, Achimélec répond, ben, je n'étais pas au courant de cette histoire-là, je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Et là, j'apprends des choses aussi, parce que par ta venue, que finalement, tu es à sa recherche. Et là, Doeg, lui, a vendu la mèche qui était là, l'Édomite, il a dit, « Hey, Saül, il dit, moi, je sais ce qui s'est passé. Puis Achimélec était de connivence avec lui, puis il les a cachés, puis il les a fait enfuir, il lui a donné une épée, puis du pain, puis il les a fait passer par tel chemin. Et puis, alors finalement, Doeg est en train de dire, Achimélec connaissait toute la chose et il a conspiré contre toi. C'est ce que Saül est en train de comprendre. Et là, verset 15, est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui, loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. J'aimerais un volontaire qui va me lire les versets 16 à 23 pour voir la fin de l'histoire de ce qui s'est passé. Un volontaire? OK, Fred. OK. Tantôt, je vous posais la question, est-ce que c'est un petit mensonge qui fait pas mal? C'est un mensonge qui a coûté cher. La ville de Nob a passé au complet, en commençant par les 85 sacrificateurs qui étaient là, moins un, un dont un qui a échappé. Et les gens qui habitaient dans Nob, les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bêtes qui étaient là, ont été passés aussi au tranchant de l'épée. Et par qui ça a été fait pour les sacrificateurs? Par Doeg, l'Édomite. C'est drôle que c'est répété régulièrement comme ça. L'Édomite, c'était un chef des bergers que Saül, qui appartenait à Saül, de Saül. Alors Saül qui s'était allié de cet homme-là, mais Saül pouvait faire passer sa mauvaise besogne, si je peux dire, par cet Édomite-là. Que c'est même l'armée du roi Saül. Il a envoyé ses coureurs et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Non, on ne fera pas ça. On ne touchera pas au sacrificateur de l'Éternel. Il a dit, Doeg, toi, vas-y d'abord. Puis ils ont tué. Puis ils ont passé au fil de l'épée. Oui. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. La folie de Saül. Ouais. Ouais. Il était vraiment furie. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'avais trois questions qui étaient, en quoi est-ce que Saül est responsable? En quoi est-ce que Achimélec était responsable? Et en quoi est-ce que Doeg était responsable? Et en quoi est-ce que David était responsable? Parce qu'on peut tout de suite lancer Achimélec où il y a eu une gang d'innocents là-dedans, dans un sens positif. Là. Lui, il n'a rien vu passer, c'est un innocent. Mais alors toute la ville de Nob, qui était innocente, Et Achimélec, qui était innocent de cette histoire-là, ben, ont passé au fil de l'épée. Et puis, alors, est-ce qu'ils étaient coupables de ça? Ils n'ont rien vu passer. Mais en quoi est-ce que Saül était responsable de ça? Ben, on vient d'en parler. Saül était en furie, et certainement qu'à travers sa colère, à travers sa jalousie, à travers beaucoup de péchés qui étaient dans son cœur, et qui voulait tellement avoir un homme, David, que finalement il a tué beaucoup de gens autour de lui. Et c'est à cause de sa folie justement meurtrière que beaucoup d'hommes ont passé. Et en quoi est-ce que Doeg était responsable? Est-ce que Dieu va condamner cet homme-là? Est-ce que Dieu va juger cet homme-là sur l'œuvre qu'il a faite? Lui qui est un Édomite? Ouais. Et le psaume 52 en parle. Clairement, David, il dit, tournez dans le psaume rapidement. 52, puis gardez un doigt dans le psaume, parce qu'on va regarder un autre psaume aussi. Psaume 52, au chef des chantres, cantique de David, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de la méchanceté tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours, ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction. Langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours et te saisira et t'enlèvera de la tente et te déracinera de la tente des vivants. Et on peut continuer comme ça le psaume 52, où ce que David a écrit suite au rapport de Doeg en disant Dieu va intervenir sur toi, Dieu va te condamner, Dieu va t'arracher, va t'enlever de la tente, il va te déraciner. Et garder un doigt dans les psaumes, parce qu'on va revenir proche. Mais en quoi est-ce que David était responsable? Il a impliqué des gens. Alors, dans son manque de foi, dans sa crainte, dans son mensonge, il a impliqué d'autres personnes. Et le mensonge, prenons le mensonge qu'on pourrait dire humainement, c'est un petit péché, mais de voir comment la conséquence d'un péché comme un mensonge que David a fait, comment est-ce que ça s'est répandu sur beaucoup de personnes, et particulièrement des sacrificateurs, qui étaient une grande perte aussi. Et David le dit, regardez le verset 22. David dit à Abiathar, qui était le sacrificateur qui s'était sauvé, « J'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. » Est-ce que c'est une confession de péché que David fait? Il est en train de dire, c'est moi qui suis coupable de la mort des gens de la maison de ton père. Et David, en quoi est-ce qu'il est responsable aussi dans le début du verset? Qu'est-ce qu'il dit? Il a conté un mensonge, mais aussi, il dit, j'ai bien pensé qu'il irait dire quelque chose. Il savait, il s'en doutait. Au moment où ce que David a menti, il a vu l'Édomite, puis il dit, j'ai bien pensé qu'il irait le dire. Puis il l'a fait. Puis il a vendu. Et c'est après ça qu'on comprend, on imagine que le chapitre 52 des Psaumes est apparu à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül. Alors David a dit son mensonge, a bien vu l'Édomite, il a su, il a compris que l'Édomite, certainement qu'il ouvrirait sa bouche, qu'il irait rendre ce rapport-là. Et finalement, David, il dit, c'est moi qui suis responsable. Et reste avec moi, crains rien, parce que celui qui en veut à ma vie, en veut à ta vie, puis on va rester ensemble. Et David, certainement qui a protégé cet homme-là, qui allait être un sacrificateur. On va finir dans les psaumes rapidement, parce que le temps avance vite, mais je veux juste lire quelques versets. Toujours dans cette fuite où ce qui s'est passé, tantôt on a passé par-dessus le début du chapitre 22 dans la caverne d'Adoulam, au chef des chantres sur colombes des térébintes lointains, hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath, qui était le bout qu'on avait lu. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. J'attends après toi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits et non à mon égard que de mauvaises pensées. » Allô, verset 9. « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » On peut arrêter là pour l'instant, mais tantôt je disais que je crois que David, là-haut où ce que Dieu le conduisait, il était dans une position où il pouvait méditer sur Dieu, réfléchir sur Dieu, de voir à travers sa crainte qu'il avait besoin de se confier en lui et de réaliser que Dieu est encore là, que Dieu compte ses pas, que Dieu sait que David sait que Dieu va prendre soin de sa vie et que Dieu est là pour moi, et puis il dit « Je me glorifierai en Dieu ». C'est une façon de dire aussi à Dieu, je me confie en toi, je te redonne ma vie, et c'est en toi que je vais me glorifier. Et ce qui va arriver sera à cause de ta main dans ma vie aussi. On aurait pu continuer de lire le chapitre 56, mais c'était justement la période où ce que David était chez les Philistins. Des fois, Dieu nous fait attendre, et dans cette attente-là, Dieu veut qu'on se confie en lui, Dieu veut qu'on s'attende à lui. Et on doit être vigilant de nos propres vies, de ne pas chercher à devancer le temps que Dieu a établi, de ne pas chercher des moyens de par nos propres, notre propre humanité à faire avancer ce que l'on désire, et puis mais de continuer de s'attendre à Dieu. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires pour terminer? Oui, Bertrand. Oui. Dans cette période d'attente-là, David avait des choses à apprendre pour devenir aussi un grand roi. Et certainement, c'est quelque chose de bien. Oui, René, puis après ça, Mélissa. Ça n'a pas marché, toujours. C'est ça. Oui. Le prophète. C'est ça. Et Dieu transforme la vie de David et les gens qui sont autour de lui le rend sensible. Un peu comme on disait, même les vaillants hommes, qui n'étaient pas très, très vaillants avant ça, c'était des gens qui avaient des créanciers, des gens qui étaient des gens de mauvaise vie, et puis finalement, ils sont devenus des hommes vaillants dans l'armée de David, des hommes qui étaient devenus des hommes importants pour David, que Dieu avait transformé David, ses hommes, et utilisé des moyens, comme tu dis, René, pour conduire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il veut nous faire avancer. Oui. C'est ça. Il y avait Mélissa qui avait levé la main aussi. Il connaissait David, il savait que c'était un homme intègre, fidèle. Oui. Oui. L'histoire aurait tourné différemment. Mais Dieu a utilisé l'histoire qui s'est passée là, puis qui va se glorifier aussi en bout de ligne. OK, mais prions. Seigneur, on vient devant toi parce que c'est toi qui es notre Dieu. c'est en toi en qui on peut se confier. Je me glorifierai en toi, que David disait. Notre vie, Seigneur, t'appartient, tu comptes nos pas, tu prends soin de nous, et même dans ces afflictions-là, dans les épreuves que l'on peut vivre, tu es continuellement là, Seigneur. Tu prends soin de nous, tu recueilles nos larmes dans tes outres, et tu prends soin de nous. On veut te dire merci. On veut te dire qu'on t'aime aussi, et qu'on est vraiment reconnaissant de ce temps que tu es avec nous, et de cette parole qui est là aussi, qui nous éclaire, qui illumine nos pensées. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.